Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme et merci d'être venus nombreux pour cet événement, pour ce livre. Mes paroles vont être des paroles très brèves avant que nous écoutions Flore Pavie et Claude Issiard qui va arriver d'un instant à l'autre. Qui sont voilà, les invités de cette soirée. Et je voudrais simplement, et avant que mes collègues disent un mot à leur tour, donc Coralie de Souza-Vernet, qui représente la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, et Thomas Ouzard, qui est le responsable scientifique de cette collection et qui représente aussi ici le ministère de la Culture. Je voudrais dire un mot d'hommage à Pascal Liébeau, qui se trouve ici, qui est chef du département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique de la Direction générale des patrimoines du ministère de la Culture. C'est un long titre pour dire que c'est une personnalité qui travaille dans l'ombre pour ce que nous faisons ici, parfois dans la lumière. Pour ce que nous faisons ici, c'est-à-dire privilégier des produits scientifiques, intellectuels, culturels de grande qualité, et donc le faire à travers des partenariats qui sont parfois complexes à faire exister dans nos institutions respectives. Et si l'ombre s'applique à quelque chose, c'est que je voudrais saluer le fait que Pascal a siégé pendant plusieurs années au conseil de cette maison et que, à travers voilà, ce travail obscur des conseils d'administration, se réalisent aussi les missions qui sont les nôtres. Et je voulais simplement lui faire un petit salut. Je vous passe la parole dans un ordre qui est fixé.
Qui a été fixé par vous, d'après le programme.
Allez-y.
Donc, effectivement, je suis un des responsables scientifiques de cette collection Ethnologie de la France et des mondes contemporains, depuis le ministère de la Culture, où je suis anthropologue chargé de mission pour l'ethnologie et le patrimoine culturel immatériel, sous la direction de Pascal Liévaux. L'autre responsable scientifique étant Sylvie Sagne, qui est chercheuse au CNRS. Donc c'est une collection qui fonctionne avec un comité de lecture et de nombreuses autres personnes issues de différents laboratoires et qui est le résultat d'un long cheminement avec la FMSH, les éditions des Maisons des Sciences de l'Homme, puisqu'on a fêté 40 ans en fait de cette collection cette année et l'année dernière, ici même et également au musée du Quai Branly. Donc ça nous fait une soixantaine de volumes déjà publiés. Et c'est vrai que c'est assez remarquable, cette longévité pour une collection en sciences sociales et en sciences humaines. Donc je pense que c'est dû aussi à ce partenariat qui fonctionne, qui se renforce d'année en année. On arrive à publier un livre par an et c'est déjà bien. Le livre dont on va parler ce soir est issu d'un terrain qui se déroule en Guadeloupe. Et ça aussi, je voulais le souligner parce que au sein de cette collection, pour l'instant, nous n'avions pas abordé des territoires ultramarins. Dans une collection qui s'appelle Ethnologie de la France, il fallait y remédier. Bon, à l'exception quand même d'un volume sur la Nouvelle-Calédonie. Et puis, quelques articles dans des ouvrages collectifs. Mais là, c'était en tout cas important d'avoir un travail non seulement qui couvre, disons, les Antilles, la Caraïbe, avec une partie, on y reviendra peut-être, mais sur l'histoire aussi récente de la Guadeloupe, qui est peut-être encore assez méconnue. Et donc le travail de Flore Pavie, elle va nous expliquer tout ça dans un instant, est le résultat d'une immersion assez longue, un travail ethnographique au sein d'un groupe en particulier, Voukoum. On a été très heureux d'accueillir cette proposition qui arrivait par ses directeurs de recherche, Laurent Berger et Philippe Descola, et de travailler avec elle pour que ce manuscrit voit le jour, avec également un travail sur l'iconographie, comme vous pouvez le constater dès la couverture, dès la première de couverture, mais aussi dans l'ouvrage, avec différentes photographies qui ont été prises par les membres de ce groupe et par aussi un photographe tel que Nicolas Localzo, qui est maintenant assez bien connu dans le domaine, disons, de la, je vais dire, la documentation des sociétés post-esclavagistes. C'est aussi voilà ce thème-là qui est traité dans ce livre. Il y a celui de l'innovation rituelle, mais il y a aussi celui de la mémoire et l'histoire de l'esclavage à travers le carnaval, et on va voir une pratique très très singulière du carnaval, pas celle qu'on peut imaginer loin du carnaval paillette. Donc c'est aussi un partenariat avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage qui avait, mais je pense que tu vas l'expliquer, Coralie, et je te passe la parole, décerné un prix de thèse déjà à Flore Pavie en amont de cette publication.
Tout à fait, Thomas, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir pour cette édition de Livres en Dialogue. Donc moi, je suis Coralie de Souza-Vernet, responsable recherche et patrimoine à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Comme vient de le dire Thomas, on est particulièrement heureux de la sortie de ce livre, puisqu'il s'agit de la transcription, enfin du travail sur le manuscrit qui a remporté le prix de thèse 2023. Et c'est important de le souligner parce que c'est le premier prix de thèse de la Fondation qui arrive jusqu'à publication. Et voilà, avec un travail assez rapide quand même, parce que pour un prix de thèse remporté en 2023 avec une publication déjà effectuée, donc bravo Flore. on parlait par exemple aussi de dans tes propos, j'ai entendu la question de représenter les Outre-mer dans la France, hein, qui font pleinement partie du territoire français. Et ça, c'est aussi un des objectifs de notre programme recherche, hein, c'est d'aider à la fois au terrain en Outre-mer et d'aider les chercheurs d'Outre-mer. Là, je reviens d'un festival Histoire à venir à Toulouse où notre partenariat vise aussi à faciliter la venue des chercheurs ultramarins qui voilà, ont des choses à apporter à ces moments d'échange scientifique, qui ont besoin d'aide pour pouvoir y participer. Et puis, j'entendais aussi parler du Quai Branly. On vient tout juste de lancer aujourd'hui notre appel pour notre bourse en partenariat avec le Musée du Quai Branly, Fondation pour la mémoire de l'esclavage et Musée du Quai Branly, pour aider la fin de la rédaction d'une thèse. Et donc, ça vient d'être lancé là, c'est la 4e édition. Et voilà, c'est pour dire aussi toutes ces partenariats qui sont nécessaires pour faire voilà, émerger ces recherches, pour les soutenir. Et donc, je voulais encore saluer ces lieux de rencontre que sont ces partenariats. Et puis, ben, si Claudiciaire est arrivé, je pense qu'on va passer la parole. Et ben voilà, c'est parfait. Donc, merci à tous. Et puis, ben, hâte d'entendre les échanges. Merci à vous.
Bonjour, merci infiniment d'être là tout à l'heure. Avec Claudiciaire, est-il là? Sentillet, le retard? Non. Non, nous étions là. Merci infiniment d'être là pour recevoir et honorer le travail de Flore Pavie. Cette journée est une journée particulière, puisque nous sommes le 27 mai. Et le 27 mai est le jour d'application de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Il est évident que Flore Pavie et toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cet ouvrage étaient sensibles à ça et souhaitaient ça, n'est-ce pas, chère Flore ? Que ce soit que la présentation de ce livre autour de Voukoum se fasse en ce 27 mai.
Oui, bien sûr, la date a été choisie volontairement pour honorer cette mémoire. Et donc en lien avec le travail, cette lutte que mène le groupe Voukoum, donc une date très symbolique et qui fait écho à ce travail.
Alors, Flore Pavie, anthropologue, ethnologue, on peut s'asseoir. On vous doit également un ouvrage auquel vous avez participé, Flore, un ouvrage qui me semble important pour rappeler la dimension plurielle de cette France. C'est le nom de cet ouvrage. C'est l'ethnologie de la France et des mondes contemporains. C'est toujours important de rappeler le côté pluriel de notre pays, pluriel culturellement, ethniquement, culturellement également. Et surtout en ces temps de repli identitaire, c'est important toujours de le dire et de rappeler que de tels ouvrages existent. Vukum, esprit rebelle du carnaval guadeloupéen. Alors j'aime à dire également qu'on est le fruit de la terre qui nous voit naître, qui nous voit grandir et je devrais ajouter qui nous adopte. La Guadeloupe vous a adopté, vous avez choisi d'être adopté par cette Guadeloupe. Racontez-nous votre immersion en terre guadeloupéenne et dans cette identité guadeloupéenne à travers Vukum.
Alors merci du coup Claudie Sœur, j'en profite pour te remercier d'animer cet échange.
On peut se dire tu alors, d'accord, on se dit tu, voilà, on fait comme dans la vie, nous sommes entre nous.
Comme en Guadeloupe.
Oui, comme en Guadeloupe.
Bon, je profite aussi du coup pour remercier tout de suite la Fondation pour la mémoire de l'esclavage qui a soutenu la publication de mon livre, du coup la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme. Ceci étant dit, donc je suis très heureuse d'être ici pour présenter mon livre. Donc effectivement, Vukum, esprit rebelle du carnaval guadeloupéen, qui est la transformation de ma thèse, donc que j'ai soutenue en 2021. Et qui donc retrace mon enquête de terrain, donc mon ethnographie au sein du groupe Vukum. Effectivement, donc je ne suis pas née en Guadeloupe. J'ai pas grandi dans Vukum comme beaucoup de membres du groupe qui ont vu leur existence un petit peu formée, construite par cette culture de Vukum. Mais je suis en quelque sorte tombée amoureuse de la Guadeloupe et notamment donc de la culture des groupes APO. Moi, je suis arrivée donc en 2018 en Guadeloupe, donc pour un poste à l'Université des Antilles, donc en civilisation latino-américaine. Et c'est à cette occasion donc que je suis rentrée dans le groupe Vukum pour connaître un petit peu plus la culture guadeloupéenne, pour apprendre le créole et pour connaître ce pan important de la Guadeloupe qui est le carnaval. Et donc finalement, j'ai décidé de changer de sujet de thèse. Je travaillais à ce moment-là sur Cuba, sur la transition. Pour le dire rapidement, sur la transition post-socialiste à Cuba. Et j'ai changé de sujet de thèse par passion pour ce sujet, même si j'ai essayé après de garder ce recul ethnographique et de reprendre mon rapport à Vukum à travers une enquête de terrain un petit peu distancée, pour certains peut-être pas assez, mais un petit peu distancée de ma passion première pour cette musique et pour cette culture. Et c'est ainsi que j'ai changé donc mon sujet de thèse pour travailler sur ce groupe.
Après, j'arrête de te titiller, mais on entend un fond d'accent guadeloupéen lorsqu'elle part de temps en temps. L'avez-vous entendu? L'entendez-vous également? Oui? Bon. Vukum, c'est un groupe que l'on, surtout lorsqu'on est de la Guadeloupe, que l'on connaît bien, que l'on suit. C'est un groupe créé en 1988. On va parler, évidemment, c'est un groupe à Pau, groupe à Mass. Pourquoi avoir choisi Vukum, sur une île où il y a d'autres formations également emblématiques de cette musique-là, de cette résistance-là, de l'affirmation de cette identité? Pourquoi Vukum?
Alors, la première raison, c'est parce que j'étais déjà musicienne dans Vukum au moment où j'ai changé mon sujet de thèse.
D'accord.
Donc, je suis d'abord entrée dans Vukum vraiment par intérêt notamment pour cette musique et donc pour l'apprendre. Et c'est dans un second temps que j'ai changé du coup de sujet de thèse et que j'ai choisi Vukum parce que j'étais déjà relativement intégrée dans le groupe. Ceci dit, le choix m'a semblé fondé et justifié par le fait que c'est un groupe qui est quand même assez particulier au sein de l'univers des groupes APO. Déjà, c'est le premier groupe de Basse-Terre, donc la région où je vis. Et par ailleurs, c'est un groupe qui a peut-être ajouté la dimension, enfin qui a en tout cas largement développé la dimension spirituelle des groupes APO, du carnaval des groupes APO, donc du MAS. Si Akio avait mis en place la dimension fortement militante de ce carnaval-là, Vukum y a contribué à ajouter la dimension spirituelle. C'est aussi un groupe qui est relativement ancien, qui n'a pas encore qui s'est pas encore scindé en plusieurs groupes, donc qui a gardé une certaine cohérence dans son propos et qui aussi a à cœur de théoriser sa propre pratique à l'oral et à l'écrit. Donc pour moi, c'était intéressant de parler avec ce groupe-là qui faisait déjà porter sa voix très largement sur sa propre pratique et de pas parler à la place d'un groupe qui peut-être le faisait moins.
Vukum, tu dis, c'est une famille. c'est devenu ta famille, au-delà d'avoir, d'avoir intégré le groupe en tant que musicienne, le fait d'avoir travaillé sur ce groupe, sur son histoire, sur ce qu'il incarne et le représente, sur les revendications, on va parler tout à l'heure de la dimension politique aussi qu'il y a chez Voukoum, c'est vraiment devenu aussi une seconde famille pour toi ?
Dans la mesure où je n'ai pas grandi dans cette culture-là, je pense qu'il y a une petite différence quand même dans la façon de considérer cette dimension familiale.
Oui.
Cependant, je pense que...
Tu en parles dans le livre de la dimension...
Absolument.
Voilà, exactement, c'est pour ça.
C'est quelque chose qui est très important. Moi, je pense que je l'ai expérimenté essentiellement dans le moment du mass. Le moment du... Notamment ce qui vient juste avant et juste après, massiage et démassiage, qui sont des expériences collectives très intenses. Le moment du mass également, donc... le fait de jouer de la musique dans cette espèce de communion qui parfois touche de près à la transe. Donc là, c'est vraiment des moments, des espaces où j'ai pu ressentir cette dimension de communion qui rapproche de l'idée de famille. Voilà.
Pour celles et ceux qui sont là et qui découvrent peut-être, tu as employé des termes rituels, tu parles du mass, on parle de groupe à peau. On va peut-être commencer par expliquer qu'est-ce qu'un groupe à peau.
Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas connaissance précisément de ces termes-là. Alors, déjà, les groupes à peau, ce sont des groupes qui utilisent, donc le point de départ, c'est qu'ils utilisent des tambours traditionnels recouverts de peau animale, au contraire d'autres groupes carnavalesques, comme les groupes dits à caisse claire, donc ils utilisent d'autres types d'instruments moins traditionnels en ce sens-là, qui ne s'apparentent pas à l'univers du gros cas. Donc, c'est d'abord ça, les groupes à peau. En tout cas, le terme fait référence
Exactement.
À ça. Mais c'est bien plus que ça, évidemment. Et donc, tout à l'heure, je parlais de la dimension militante et de la dimension spirituelle. Et donc, je pense que ce sont les deux dimensions imbriquées, l'une servant l'autre, et réciproquement, qui vraiment fondent la particularité de ces groupes à peau. Donc, plus concrètement, ce sont des groupes qui pratiquent ce qu'on appelle donc les déboulés, donc ce qui se distingue des défilés de certains autres groupes carnavalesques, qui sont aussi dans l'esthétique un petit peu plus inspirée des évolutions du carnaval de Rio, donc qui vont plus développer la dimension un petit peu spectaculaire, esthétique, etc. Les groupes à peau sont dans une logique un petit peu, on pourrait dire, plus brutale. Il y a une idée donc d'entrer de façon un peu incontrôlable dans l'espace public, de marcher rapidement et que rien ne peut les arrêter. Donc c'est d'abord ça, les groupes à peau, mais évidemment, il y aurait...
Dans, dans la préface du livre que tu as confié à Michel Agier, il parle justement, il dit que cet ouvrage est une forme de résistance au racisme. Il parle de cette parole publique, de cette performance publique acquise. C'est une sorte d'affirmation de soi et qui passe. Alors là, c'est pour ça que je voudrais qu'on parle d'africanité, qui passe par ce détour de l'Afrique sans aller vers l'Afrique. Voukoum, c'est l'afro-caribéanité. Voukoum, on n'a pas encore cité le mot, mais c'est l'africanité de la Guadeloupe qui s'exprime à travers Voukoum, à travers les rituels. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure.
Effectivement, c'est une dimension qui est centrale, même si il faut quand même bien insister sur le fait que les cultures africaines ne sont pas les seules à être mises en valeur et mises en avant dans le mass des groupes comme Voukoum. Il y a aussi des références qui sont faites, par exemple, aux engagés indiens qui ont été envoyés en Guadeloupe suite à l'abolition. On a aussi des références aux populations autochtones, Kalinago. Donc, ce sont des références à tous les ancêtres oubliés de l'histoire officielle, qui ont été dévalorisés pendant longtemps, dont la mémoire n'a pas été suffisamment mise en valeur. Donc, effectivement, cependant, l'Afrique a un poids très important dans ces groupes-là.
Bah, le tambour, déjà.
Bien sûr.
Ouais.
Et aussi en tant que un petit peu réservoir d'imaginaire sacré, au-delà de tout tous les objets qui ont pu être effectivement de fait inspirés de pratiques africaines, on a vraiment la dimension d'une figure à laquelle il s'agit, comme tu disais tout à l'heure, non pas, enfin c'est pas vraiment comme Michel Agier le disait dans la préface, c'est pas exactement un retour, mais c'est plus un détour, c'est-à-dire qu'on passe par ce symbole de l'Afrique pour construire une culture proprement guadeloupéenne.
Une nouvelle identité, une identité caribéenne, afro-caribéenne, sixième continent.
En fait, l'Afrique est importante dans la mesure où elle permet de penser l'identité caribéenne, proprement caribéenne, donc en fait de réinscrire la Guadeloupe dans une région caribéenne, donc en lien avec d'autres territoires, d'autres îles, aussi la côte caribéenne, donc avec des pratiques qui sont très proches, dans certains cas, du MAS. Donc de réinscrire la Guadeloupe dans cet environnement-là pour en fait qu'elle ne soit pas uniquement, comme elle l'a été longtemps, finalement une périphérie d'un centre que serait la France située en Europe.
Tu as évoqué tout à l'heure cette différence entre les déboulés de Voukoum et de quelques groupes APO, la différence qu'il y a avec d'autres au moment des défilés, un carnaval plus touristique, si je puis dire. Lorsque tu évoques le carnaval également dans cet ouvrage, tu parles d'un carnaval qui, lui, serait une forme de, et depuis l'esclavage, de contrôle un peu des tensions sociales, des tensions des esclaves avant et aujourd'hui, bien c'est une sorte d'exutoire pour beaucoup. Et Voukoum, c'est tout autre chose. Voukoum, lui, justement, ne veut pas, par exemple, au moment du carnaval, il préfère parfois avoir un peu de distance avec les autres groupes qui défilent parce qu'il y a un rituel, une dimension spirituelle que les autres n'ont pas. Tu l'expliques bien.
Merci. C'est vrai que c'est un élément qui m'avait même surpris au tout début. Pourquoi est-ce qu'on ne déboulait pas? Parce qu'on apprend par la pratique. Hein, au départ, il n'y a pas vraiment un texte qui vous explique immédiatement ce dont il s'agit dans les groupes APO et dans le MAS. Et donc, pourquoi on ne déboulait pas avec d'autres groupes? Effectivement, le déboulé et le défilé carnavalesque sont considérés comme deux pratiques qui sont complètement différentes, même si elles ont lieu à peu près au même moment et dans des lieux parfois proches. Mais les groupes APO qui déboulent, généralement ne suivent pas les itinéraires officiels du carnaval, ne déposent pas toujours nécessairement ou déposent une demande de défilé, mais bon, c'est pas, s'il n'y a pas la réponse, on peut quand même y aller, parfois à contre-courant de la circulation, etc. Donc il y a vraiment une logique complètement différente. On peut traverser les autres groupes qui sont en train de défiler et qui font les parades ou les chorégraphies. Donc c'est pas du tout la même irruption dans l'espace public.
Est-ce une forme de défiance face à l'ordre établi, justement pour rappeler la subversion des nègres marrons, de celles et ceux qui refusaient la servitude et qui aujourd'hui refusent un ordre établi que certains dépendantistes ou autonomistes appelleraient le néocolonialisme français et une façon de dire nous restons des insoumis quoi qu'il arrive. Mon propos n'a rien à voir avec un parti politique.
Je pense qu'on peut avoir s'inscrire dans un mouvement décolonial avec une sensibilité indépendantiste ou non, autonomiste ou non. En tout cas, cette question du décolonial se pose quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que le destin politique de la Guadeloupe est un petit peu particulier dans le contexte caribéen. La plupart des îles ont acquis leur indépendance, ce n'est pas le cas en Guadeloupe. Et l'évolution de cette structure politique et socio-économique doit être pensée et doit encore être remise en question, je pense. De toute manière, il faut se poser la question. Donc la question du décolonial se pose quoi qu'il arrive. La question de cet ordre qu'on peut appeler donc néocolonial à de nombreux égards, c'est ce qui est pointé par Voukoum finalement comme un désordre. C'est-à-dire que Voukoum le mot Voukoum signifie désordre, et Voukoum a l'ambition de créer un désordre pour finalement recréer un ordre. Un autre ordre. Donc le désordre initial qui est pointé, c'est effectivement celui des structures néocoloniales qui subsistent en Guadeloupe. Donc effectivement, en ce sens-là, les groupes APO ont une approche du carnaval très différente des carnavals traditionnels, enfin classiques, notamment, en Europe notamment, qui ont plutôt pour ambition, enfin, c'est pas théorisé comme tel, mais en tout cas, c'est ce qu'on dit en général à propos du carnaval, c'est que le but est de créer une sorte de soupape de sécurité pour l'ordre quotidien, c'est-à-dire que on se défoule, les tensions sociales s'apaisent un petit peu, et puis on peut revenir à la fin du carnaval à un ordre qui est renforcé, et finalement, on ne change rien. Même si on ironise sur les problèmes sociaux, le but est finalement quand même de se sentir mieux après pour revenir à la vie quotidienne. Et je crois que dans les groupes APO, dans le MAS, il y a ce choix de transformer les acteurs du MAS profondément pour transformer la société guadeloupéenne.
Dans Voukoum, esprit rebelle du carnaval guadeloupéen, tu, Tu évoques également la naissance de ces groupes à peau, revendication là encore identitaire et autonomiste, indépendantiste. C'est au moment de mai 67, c'est à ces moments-là, c'est durant également les grandes manifestations et les attentats également des années 60, fin des années 70, années 80 en Guadeloupe. C'est à ce moment-là que ces groupes-là se font entendre, parce que jusque-là, cette musique-là, le tambour, c'était comme on dit chez nous, je dis chez nous en Guadeloupe, c'était musique à nègre, musique à vieux nègre. Donc je traduis, musique pour les vieux nègres. J'aime beaucoup le drapeau du monsieur là. Regarde, Flore. Envoyez aussi, ok.
Oui, il y a
ah ben oui, Voukoum, évidemment. Mais Mouna Voukoum, ah d'accord, ok. C'est vrai? Eh ben Mimi, s'il vous plaît, applaudissez-le, s'il vous plaît. Donc c'est vraiment à ce moment-là que les groupes à peau expriment, font entendre leur voix, parce qu'on est dans un temps de grande tension sociale, politique et de revendication identitaire.
Oui, là, on parlait tout à l'heure du décolonial et c'est une question qui se pose avec beaucoup d'acuité, notamment à partir des années 60 en Guadeloupe, avec l'indépendance de l'Algérie notamment. Et en mai 67, tu as raison de le souligner, il y a eu quand même un massacre important, répression très violente des manifestations, qui a contribué du coup à affaiblir notamment le gong, qui oui. était à ce moment-là, qui faisait partie des mouvements les plus actifs, mais qui a été, enfin la lutte a été poursuivie notamment par l'UPLG par la suite, et donc finalement dans les années, à la fin des années 70, on a aussi le mouvement syndical qui s'est beaucoup développé pour compenser un petit peu les nouvelles difficultés pour les mouvements indépendantistes de s'exprimer. Et le mouvement syndical était une continuation de la lutte par d'autres moyens, d'une certaine façon, puisque sur le plan socio-économique, on cherchait à faire valoir les droits des travailleurs guadeloupéens. Et faire valoir ces droits, c'était aussi passer par la revalorisation de certains aspects de la culture guadeloupéenne. Donc on peut penser notamment à l'Union des travailleurs agricoles, qui a décidé de commencer les négociations intégralement en créole, pour que les travailleurs puissent s'auto-représenter. Et donc, on se rendait compte à ce moment-là très fortement que la culture était au cœur des luttes également politiques et socio-économiques. Donc finalement, les groupes à peau s'inscrivent dans ce mouvement-là de lutte décoloniale qui passe par la culture. Et le carnaval est l'un de ces aspects de culture guadeloupéenne. C'est un aspect vraiment central, puisque non seulement c'est une tradition populaire qui est en train de disparaître, par ailleurs, c'est aussi une pratique, c'est-à-dire la pratique du mas, donc, oui. qui est pensée comme une sorte de réservoir culturel où des pratiques ancestrales spirituelles auraient pu être un petit peu plus conservées que dans d'autres aspects de la société, puisque c'était un moment, le carnaval, où les esclaves pouvaient, avec une certaine mesure, bien oui. sûr, pratiquer certains rites, en tout cas dans ce contexte-là, qui ont du coup pu être... en tout cas, c'est le récit qui en est fait par les acteurs du mas. Et donc le carnaval a pris cette importance-là dans ce contexte.
L'occasion de dire ce qu'est le mas.
Alors, ce serait bien sûr un petit peu long de vraiment tout expliquer, mais le mas, c'est d'abord... Alors, le premier sens du terme... Donc, sont les tenues, l'ensemble des tenues, qui sont mobilisées par donc les acteurs des groupes à masse puis des groupes à peau. Donc, les tenues qui font référence pour les groupes à peau à différents, donc on le disait tout à l'heure, ancêtres invisibilisés dans l'histoire guadeloupéenne, notamment. Et donc, ces tenues, donc ces masses, donnent ensuite lieu au terme le mas, qui donc représente le rituel de transformation qui mobilise ces tenues. Pour le dire rapidement.
Oui, c'est très clair. Alors justement, tu donnes des chiffres importants pour comprendre la composition de Voukoum ou celles et ceux qui suivent Voukoum. Dans le livre, tu donnes des chiffres. On se rend compte que celles et ceux qui composent la formation sont plutôt des gens de l'informel. Alors on dirait en Afrique, mais le terme que tu emploies pour parler d'eux, c'est profession intermédiaire, surtout des employés, et finalement très 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 peu de cadres dits supérieurs, CSP+, ou intellectuels, Alors que Vukum, par sa dimension justement identitaire, politique également, on va en parler, devrait intéresser ces couches-là qui finalement semblent éloignées. J'ai une lecture de cela, mais quelle est la tienne ?
Oui, c'est vrai. Alors la composition, donc les termes profession intermédiaire, etc., sont donc des catégories sociologiques,
oui,
des lycées,
oui, oui,
etc. Mais en tout cas, c'est une composition sociale, sociologique qui s'éloigne pas tant que ça de la composition sociale de la Guadeloupe et même de la France hexagonale. Mais effectivement, je pense que c'est assez important de voir que, en fait, c'est les groupes à peau, c'est une partie de la population qui décide de reprendre à sa charge le récit d'une histoire un petit peu oubliée, de pages lacunaires de l'histoire de la Guadeloupe. Donc c'est vraiment un mouvement populaire, mais de réappropriation d'une histoire. Donc finalement, pourquoi est-ce que il n'y a pas plus de professions intellectuelles, etc. Je pense que ça fait quand même référence au rapport de force aussi socio-économique qui se joue à travers les revendications des groupes à peau qui peuvent inquiéter potentiellement certaines classes sociales.
Lorsqu'on parle de Vukum, on parle de Badibou, comme on dit chez nous en créole, mais Vukum dit non, nous ce n'est pas que Badibou, Vukum c'est toute la Guadeloupe. Tu en parles, tu le dis, pourquoi est-ce que Vukum a besoin d'affirmer ça? Nous ne sommes pas juste comme d'autres groupes, hein, de tel endroit. Alors, chez moi, à Sainte-Anne, c'est Songessa, par exemple, même si on est très proche aussi d'Aquillo. Mais Vukum, nous voulons être la Guadeloupe. Intéressant.
Oui, c'est vrai. Mais c'est un groupe, effectivement, qui a vraiment eu cette ambition-là dès le départ, de s'exprimer à grande échelle, donc d'intéresser les Guadeloupéens en général, de s'exprimer au sujet de différents pans culturels de la Guadeloupe et de ne pas se cantonner ni à une ville, ni à un quartier, ni même à un aspect culturel ou à une origine ou une autre de la population. Et c'est un groupe aussi qui a cherché à transmettre ses savoirs hors de Basse-Terre, mais aussi hors de la Guadeloupe, avec différents événements qui ont été réalisés en France hexagonale, mais aussi dans la Caraïbe et en Afrique de l'Ouest aussi, donc avec des échanges qui ont eu lieu au Sénégal, au Bénin, etc.
Dès les années 90, oui, effectivement, le groupe est sorti. Oui. C'est Maurice Lurel qui dit, et donc tu reprends son propos, beaucoup de ceux qui étaient venus au début croyaient que Vukum, donc c'était un groupe de Badibou, nous leur avons dit que non, Vukum, c'est un groupe de Guadeloupe, c'est un groupe de Basse-Terre, et c'est un groupe qui ne concerne pas que les gens de Badibou. Et après cela, nous avons déclaré que Vukum était un mouvement culturel de la Guadeloupe.
Mmh. Le terme de mouvement culturel aussi est important, parce qu'on voit à travers ce terme qu'il ne s'agit pas seulement de carnaval, même si le carnaval a été choisi comme une période donc propice à l'expression de ces luttes, mais c'est le MAS, c'est une pratique, enfin, pas le MAS au sens propre, mais en tout cas la pratique des groupes à peau va bien au-delà du carnaval et a lieu toute l'année dans différentes formes de mobilisation, y compris en soutien à des mouvements de grève, etc. Donc je crois que j'ai un petit peu oublié la question.
Oui, mais non, mais tu as ajouté à cette réponse, à ce que dit Maurice Lurel, justement. Voilà, c'est un mouvement culturel. Alors, on va parler de Vukum artistiquement parlant, parce que c'est important, c'est plus que significatif. Je voudrais qu'on parle du Vukum politique, on l'a un petit peu abordé en 2009. Vukum est dans les rues de la Guadeloupe, avec évidemment, dans ce mouvement syndical contre la vie chère, on en parle aujourd'hui encore beaucoup en Martinique, mais aussi en Guadeloupe, ils sont dans les rues. Cette année-là, le carnaval est annulé, mais Vukum manifeste avec le LKP.
Oui,
et tu en parles dans le livre.
Donc tous les groupes à peau n'ont pas participé à ces mouvements, notamment de grève, mais en tout cas, à ma connaissance, seulement des groupes à peau l'ont fait. Donc on voit bien la spécificité de cette catégorie-là de groupes carnavalesques qui donc s'inscrivent dans une forme de lutte à tous les niveaux. Effectivement, donc Vukum et Aquillo qui ont signé également une charte de souveraineté culturelle et qui ont décidé de manifester. Le carnaval avait été donc interdit, annulé, mais de manifester aux côtés donc des travailleurs, des grévistes.
Et dans l'ouvrage, il y a de très belles photos. Justement, il y a la parole de Patrick Coquerel qui est très intéressante. On ne pouvait pas partir faire des festivités de masse, alors que le pays était tout chamboulé. Le créole français, c'est vraiment, c'est chez nous où on dit ça. Tous les dimanches, on sortait avec un t-shirt, on sortait du local, on allait tourner à Solitude et on retournait par l'assainissement devant donc le local du LKP. Et à 21h, on rentrait. Et à, parce qu'il y avait couvre-feu, faut le rappeler à un certain moment. Et après, petit à petit, d'autres ont commencé à nous suivre. Pas tous, c'est ce que tu disais très justement, mais que des groupes à peau. Les autres ne sont jamais dans la revendication. On voit là toute la dimension politique donc de Voukoum. Y aurait-il quelque chose de précis à dire ? Est-ce que Voukoum, aujourd'hui, est un groupe indépendantiste, autonomiste ? Est-ce qu'il y a cette affirmation-là ? Est-ce que c'est quelque chose qui est dit, qui est affirmé et assumé ?
Alors, Voukoum a à cœur, en tout cas ses représentants ont à cœur de maintenir Voukoum dans la dimension, officiellement en tout cas, dans la dimension culturelle de la lutte, dans l'aspect culturel de la lutte. C'est-à-dire que les syndicats ont leur domaine de lutte, les groupes à peau moins culturels ont un autre domaine de lutte. Donc, en tant que groupe, Voukoum ne se positionne pas explicitement comme étant indépendantiste. Comme je disais tout à l'heure, la question par contre de l'anticolonialisme et la question décoloniale se pose à chaque instant dans chaque action de Voukoum, mais la question de l'indépendantisme à proprement parler est l'affaire de chaque individu. Et donc, il peut y avoir des personnes indépendantistes dans le groupe et d'autres qui ne le sont pas, qui peuvent être autonomistes ou avoir d'autres ou chercher à ce que finalement la Guadeloupe soit un territoire reconnu à part entière et ne soit pas maintenu en position de périphérie, donc comme cette... on me disait tout à l'heure, dans cette structure néocoloniale qui maintient un certain système ancien.
On va parler de l'esprit rebelle. Mmh. D'ailleurs, le titre du livre, c'est « Esprit rebelle au pluriel ». Pourquoi au pluriel ?
Il y a
des esprits, un esprit.
On aurait pu mettre le S entre parenthèses dans le sens où les deux ont du sens. Mmh. Mais les esprits rebelles, c'est une référence à la fois aux acteurs du MAS.
D'accord.
Qui, à différents degrés, reprennent à leur compte cette forme de rébellion en faisant partie du groupe. Mais c'est aussi, bien sûr, une référence aux esprits des ancêtres. Qui donc à ce moment-là sont présentés comme des esprits un petit peu tutélaires qui viennent nourrir et irriguer le MAS et à travers le MAS la lutte pour la culture guadeloupéenne. Donc ce sont aussi les esprits, les entités qui viennent s'incarner dans les personnes transformées au cours du MAS.
Tu parles de la transformation des corps et permettez cette petite gymnastique parce que je voudrais lire un extrait du livre, de ce que tu dis au sujet justement de cette transformation. C'est pas facile, habituellement en radio on a le micro qui est tout droit et on n'a plus qu'à... C'est pas si simple que ça. Tu m'écris au sujet de la transformation des corps à travers un double travail, recherche sur les masses traditionnelles de la basse terre et création libre à partir de cette base, un ensemble de techniques de collecte et de confection permet de transformer les corps des membres de Voukoum, donc, toujours en référence à trois notions émiques, donc essentielles, le respect du MAS, l'esprit du MAS et une certaine utilisation du mot tradition. Explication.
Alors, pour ce qui concerne déjà le respect du MAS qui se réfère à l'esprit du MAS, c'est-à-dire que les MAS évoluent, le rituel du MAS évolue, n'est pas figé. Les différents MAS, donc les différentes tenues pour le dire ainsi, évoluent également. Donc certains MAS sont créés, d'autres ne sont plus mobilisés dans une année ou l'autre. Mais chaque masse créée et chaque nouvelle pratique rituelle doit être créée dans l'esprit du masse, donc avec le respect du masse, c'est-à-dire en référence à une certaine, certaine philosophie, une certaine façon de penser la logique intrinsèque du masse, et qui doit toujours être prise en compte. Donc cette logique intrinsèque du masse, c'est celle qui a été mise en place dans la tradition des groupes à masse, donc avant la naissance des groupes à peau, donc ces groupes à masse qui étaient donc des petites sociétés, on pourrait dire sociétés secrètes masculines, dans lesquelles donc les personnes, les acteurs se transformaient en secret, en cachette, et ne disaient pas qu'elles faisaient partie nécessairement de ces groupes-là, et qui utilisaient notamment des matériaux végétaux, animaux, enfin d'origine animale, qui étaient à disposition à ce moment-là des personnes qui faisaient partie de ces groupes, qui étaient généralement des populations ouvrières, ouvriers agricoles, etc. Et qui, donc, selon le récit des groupes à peau, donc ces groupes à masse, avaient déjà une façon spirituelle, il y avait une dimension sacrée dans leur pratique, qui déjà était distincte du carnaval officiel, qui n'avait lieu que pendant les jours gras. Donc, du coup, lorsque des nouveaux masses sont créés ou lorsque des nouvelles pratiques sont créées, parce que ça peut arriver, par exemple, le décatement, c'est quelque chose qui a été créé par Vukum, qui n'existait pas dans les groupes à masse notamment. Et donc, lorsque des nouvelles pratiques sont créées, il faut toujours que ce soit fait en référence à cet esprit initial du masse, qui, au-delà des groupes à masse, peut aussi faire référence à ce masse des populations réduites en esclavage qui auraient donc pratiqué ces rituels que j'évoquais tout à l'heure en les déguisant en divertissement carnavalesque. Donc c'est un petit peu tout ça qui fait partie de l'esprit du masse.
Lorsque tu parles des populations justement réduites en esclavage, souvenirs d'enfance, enfant, j'avais peur des personnages qui portaient des masques et qui faisaient claquer leur fouet sur le sol et demandaient de l'argent. Bon, moi, on t'y l'argent. Enfant, j'avais peur de ces personnages-là. Le fouet est utilisé par Vukum. Quel symbole a-t-il, justement, dans le rite de Vukum au moment des déboulés?
Alors, le fouet.
Ça, c'est la question un peu personnelle.
C'est une question. Enfin, c'est pas facile d'y répondre, en tout cas avec certitude. Le fouet, c'est un élément rituel qui a été conservé au cours du temps parce qu'il était aussi impactant, parce qu'il avait une résonance pour les acteurs, pour différentes raisons. Donc ces raisons-là sont possiblement une référence à certains rituels de fécondité. Donc ça, il y a des recherches qui ont été faites un petit peu sur ces questions-là. Mais aussi, évidemment, le symbole qui vient en tête immédiatement, c'est la réappropriation des symboles de la domination coloniale esclavagiste, la réappropriation pour en faire un outil de puissance, au contraire, et donc se réapproprier cette force qui nous a dominés pour en faire finalement une force de libération.
Une dimension un peu césarienne, lorsque Césaire, évidemment, s'approprie le terme de nègre pour créer le mouvement de la négritude. En réalité, c'est une insulte que l'on retourne. C'est une arme de violence qui lacère les chairs que l'on retourne et que l'on prend. On dit qu'aujourd'hui, le fouet, on l'entre nos mains, mais il ne sera plus le symbole de notre malheur, des sévices infligés aux esclaves. On va pas tout dire, mais je voudrais qu'on parle maintenant de cette dimension artistique de Vukum. Combien sont-ils au moment des déboulés?
Alors, ça dépend vraiment des déboulés. Donc, il y a différentes catégories de déboulés. Les déboulés masse, donc au sens strict, c'est-à-dire donc. Alors, pour résumer rapidement, il y a des déboulés donc appelés dérision, des déboulés dits populaires et des déboulés masse. Les déboulés masse donc sont les plus forts sur le plan spirituel. En tout cas, c'est ce que la plupart des acteurs ressentent. Donc, ce sont des déboulés où généralement donc la référence des tenues. Ce sont donc les ancêtres dominés, les ancêtres oubliés. Et donc, dans ces déboulés masse, il y a généralement un petit peu moins de monde. Donc, ça peut être quelques dizaines de personnes seulement. Ça peut être plus aussi, ça dépend. Les déboulés populaires, ça peut être plusieurs centaines pour Akio, plusieurs milliers, etc. Pour Vukum à Basse Terre, c'est en général un peu moins que Akio. Mais en tout cas, voilà, ça dépend des masses. Mais les déboulés masse sont généralement ceux qui amènent le moins de monde, mais qui sont aussi les plus puissants, parce que justement, les personnes qui participent sont très impliquées et souvent plus conscientes des enjeux de ces déboulés.
Alors justement, au moment des grands déboulés, il y a celles et ceux qui viennent et qui suivent,
ça m'est arrivé, voilà, de suivre Voukoum. Tu as évoqué les, par le passé, il y avait ce que l'on pouvait considérer comme étant des sociétés secrètes. Comment devient-on membre de Voukoum? Est-ce facile d'entrer dans Voukoum, d'entrer pour faire son désordre aussi, pour exprimer ce que l'on est, en respectant la tradition et en respectant le mas?
Aujourd'hui, les groupes APO ont tendance à accepter facilement l'entrée de qui souhaite participer, oui, qui souhaite connaître. Ensuite, je pense que la sélection ou le tri, mais en tout cas, c'est le fait de rester dans le groupe qui va se, enfin, ça va se décider assez naturellement si on fait corps avec un petit peu les revendications et ce type de pratique-là, et si on arrive à se les approprier et que ça vibre vraiment pour nous. Donc, je pense que c'est plus ce côté-là, c'est est-ce qu'on reste que dans le divertissement, auquel cas peut-être on peut se lasser assez vite et passer dans d'autres groupes qui sont avec peut-être plus de chorégraphie, plus de parades, des tenues,
plus de paillettes, plus de strass,
voilà, plus spectaculaire, etc. Mmh. Et je pense que si on reste dans des groupes APO, c'est parce qu'on est touché par cet aspect à la fois historique, militant et spirituel.
Comment est-ce que Voukoum travaille pour justement les costumes, si je puis dire? Comment est-ce que tout ça s'organise?
Alors, la confection des masses se fait généralement, enfin, en tout cas, il est encouragé de les confectionner collectivement au local, parce que ça fait partie de cet esprit du mas, justement, de faire un petit peu communion avec les autres acteurs du mas et de comprendre plus facilement la signification des différents mas, et que ce soit pas juste une tenue dépourvue de signification. Et ça prend un certain temps, donc c'est pas comparable aux tenues d'autres groupes carnavalesques qui peuvent coûter beaucoup plus cher, etc. Donc, nécessiter également des sacrifices, mais là, c'est plus en temps et en investissement personnel et en compréhension des enjeux de chaque masse, puisqu'on va choisir chaque élément du masse en référence en général à des symboles qui peuvent être très importants. Et du coup, il faut comprendre ce que ça signifie pour essayer de le faire le mieux possible. Et après, le moment du massage en lui-même, donc le moment où on passe à la question des enduits corporels, donc de se utiliser différents produits comme l'huile de roucou, le gros sirop, donc en gros la mélasse de canne à sucre, etc., ou l'argile.
Flore nous dit ça, et une sorte de délectation dans son propos, sur son visage. Poursuis. Tels des souvenirs qui lui reviennent à l'esprit, comme ça.
Non, c'est vrai que c'est des moments qui, c'est des expériences fortes qui, je pense, ont un sens profond et qui font vivre aux personnes qui y participent des émotions assez intenses, même si cette histoire-là ne résonne pas de la même manière en chacun de nous, selon notre histoire personnelle, etc. Bien sûr, mais je pense qu'il peut y avoir quelque chose finalement, dans une certaine mesure, d'universel dans ce mas.
Il y a, alors là, on est passé d'un moment d'euphorie que l'on a deviné, entendu dans ta voix, deviné sur ton visage, un moment d'émotion. On parlait de famille tout à l'heure, hein, de famille, de communion. Comment est-ce qu'au sein même d'une formation, d'un groupe comme Voukoum, comment on arrive à faire peuple, c'est le cas de le dire. Il y a la dimension donc spirituelle de Voukoum. De quel syncrétisme s'agit-il? Tu l'évoques dans l'ouvrage, mais est-ce que tu pourrais nous résumer, parce qu'on ne va pas encore une fois tout vous dire, il va falloir vous offrir cet ouvrage-là, mais peux-tu nous résumer de quel syncrétisme pourrait-il s'agir? Voilà.
Alors ça, c'est assez difficile de répondre vraiment à cette question, dans la mesure où, malheureusement, la Guadeloupe fait partie des territoires où on n'a pas énormément de traces, notamment écrites, puisque le destin postcolonial de la Guadeloupe n'a pas encouragé les autorités à valoriser ces mémoires alternatives, notamment sur le plan spirituel, etc. Donc, au contraire, d'autres îles comme Cuba ou Haïti, on se retrouve aujourd'hui en Guadeloupe avec une mémoire assez morcelée, assez parcellaire de ce qu'auraient pu être vraiment les rituels ancestraux. Donc c'est assez difficile de faire vraiment la part entre ce qui est recréé, ce qui est inspiré des îles voisines et de la Caraïbe en général, pensés comme des endroits où la mémoire, notamment de l'Afrique, a pu être conservée plus durablement. Ce qui a été vraiment conservé réellement au cours du carnaval, etc. Donc, c'est un syncrétisme, en tout cas, qui peut rappeler à certains égards ce qu'on retrouve notamment à Cuba, donc avec la religion Lukumi, ou en Haïti avec le vaudou. Mais donc, à la différence que c'est passé, à défaut d'autre chose, par le biais du carnaval.
Justement, tu évoques, tu as consacré un chapitre à cette fabrique du rituel, donc un rituel nouveau. Et tu dis, en effet, ce qui distingue pour eux la confection d'un mas de celle d'une tenue carnavalesque d'un autre type de groupe repose également sur la capacité du mas à faire intervenir, une fois porté, un agent que les acteurs appellent parfois esprit et qui motive peut-être aussi leur usage récurrent du terme flou de spiritualité, outre celui de rituel, donc. Plusieurs membres du groupe affirment que cette approche des masses dites spirituelles est propre à Vukum, parce qu'encore une fois, je le répète, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais Vukum a décidé de fabriquer son propre rite, pour les raisons que tu as évoquées, parce que les choses sont perdues, parce que ça n'a pas été écrit et qu'il n'y a pas eu de griot chez nous pour raconter les histoires passées.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, le terme spiritualité, justement, est utilisé un petit peu de différentes façons, mais notamment comme ce qui resterait aujourd'hui de religion plus organisée, plus institutionnalisée dans une certaine mesure, en tout cas qui était un petit peu plus structurée. Et aujourd'hui, il en resterait cette forme, finalement, d'abord individuelle, qui passe par la mémoire des corps, par des pratiques qui ont été, dans un premier temps, désacralisées, dont aujourd'hui on essaye de retrouver la force sacrée. Et donc, c'est une spiritualité qui passe par une recherche individuelle et collective de la signification de ces pratiques qui, dans le passé, ont été plus structurées.
On passe donc du religieux au profane, à l'animisme également.
Oui, la frontière entre religieux et profane est constamment interrogée dans les masses, finalement, dans la pratique, puisque le carnaval est intrinsèquement une festivité profane, qui est pensée d'abord comme un lieu de divertissement, de défoulement, etc. Mais le mas est pensé par les acteurs comme un espace un petit peu délimité à l'intérieur du carnaval, où une sorte de sacré aurait été un petit peu protégé et qu'on essaierait de préserver aujourd'hui et de le raviver davantage. Donc on a vraiment on participe au carnaval profane tout en sachant individuellement et collectivement que l'on est en train de faire quelque chose qui se rapproche du sacré.
On va pas tout vous dire sur l'ouvrage. Il y a d'autres sujets que je voulais aborder avec toi, mais tout dire, tout raconter, vous éviterez. Et justement, j'allais poser la question. J'allais dire, dites-moi, parce que sinon, moi, je suis parti, je parle longtemps. Allez, si vous le souhaitez, maintenant, vous pouvez vous exprimer, poser des questions à notre Flore Pavy.
Bonjour, merci beaucoup, félicitations pour un résumé. Ça, c'est pas facile, donc vraiment un grand bravo. Et je voulais savoir j'étais curieux de savoir ce que Vukum vous avez apporté dans votre vie quotidienne, dans votre vie personnelle, parce qu'il semblerait que ça a changé un petit peu certaines choses, certaines destinations même culturelles que vous aviez, priorités culturelles. Donc, c'est un peu personnel, comme c'est un peu mon cas aussi, où la Guadeloupe aussi a modifié beaucoup de choses. Je voudrais savoir, je suis impatient de savoir jusqu'à quel point, maintenant vous... Et peut-être même jusqu'à quel point vous vous sentez guadeloupéenne, peut-être. Voilà, c'est une curiosité, mais je pense que c'est très intéressant dans ce phénomène de mouvement culturel. Merci beaucoup encore.
C'est une question vraiment intéressante et complexe. Je dirais que dans un premier temps, mon expérience donc du mas avec Vukum, m'a permis de réfléchir davantage à ma position en tant que personne originaire de la France hexagonale, vivant en Guadeloupe, donc aujourd'hui depuis 7 ans, et comment je m'inscrivais finalement dans cette histoire-là, à mon échelle. Est-ce que ma présence finalement, enfin ma présence fait partie d'une certaine structure par le fait que je vis, que je travaille là-bas. Et finalement, mon intégration dans beaucoup, mais cette expérience-là a contribué à m'aider à penser cette position-là que je peux avoir en Guadeloupe. Je pense que ce livre, pour moi, c'est une des étapes de mon cheminement dans cette réflexion-là, de mon rapport au décolonial notamment, et comment mon action, quelle action je peux avoir dans ce contexte-là, qui me semble extrêmement important aujourd'hui. Un petit peu plus personnellement, je vais le dire comme je peux, mais je pense que la question de reconstruire des fils ancestraux, générationnels, enfin transgénérationnels du coup, qui ont été coupés avec certains oublis dans le destin individuel de chacun, au-delà des questions sociales, politiques, historiques, c'est quelque chose qui m'a aussi parlé et qui m'a permis aussi de m'interroger sur dans ma vie personnelle, qu'est-ce que ça signifie se souvenir, retrouver des choses qui ont été oubliées, des généalogies inconnues, un certain mystère dans l'histoire personnelle, etc. Donc il y a des choses comme ça qui ont fait écho aussi avec mon histoire.
Pourrais-tu, Flore, aujourd'hui chanter « La Guadeloupe, c'est en nous, la Guadeloupe, c'est pas taillot » ?
Alors, chanter...
Non, je ne vais pas te demander de chanter, mais pourrais-tu fredonner ça et en faisant de cette chanson, en la faisant tienne ?
La Guadeloupe, c'est en nous, la Guadeloupe, c'est pas taillot.
Voilà, bon, ben voilà. Qui souhaite également s'exprimer ? Vukum.
J'ai vu faire des petits noms de la tête par moment, donc je m'attends à tout. Je vous voyais faire des petits noms de la tête de temps en temps, donc j'avais hâte de
discuter.
Oui,
je suis Tisoreille Dupont-Jean-Pierre. Membre fondateur de Vukum. Donc, j'aimerais savoir si, à travers ton expérience au sein de Vukum, tu as eu, est-ce que tu t'es concentré sur la musique même de Vukum, ce qu'ils font exactement, d'où provient cette musique ? Je ne sais pas si ça a été dit.
Mm-hmm. Alors. Moi, j'ai surtout essayé de relayer et apporter mon point de vue en anthropologie sur des témoignages, notamment des membres fondateurs. Donc, je serais ravie d'avoir vos lumières vraiment en complément. En tout cas, j'ai essayé d'initier une recherche sur les questions musicales. Pour les personnes du coup qui connaissent pas les groupes Apo, notamment Vukum. Donc, Vukum a créer une forme musicale qu'on appelle le gros sirop, qui se distingue du Saint-Jean, que d'autres groupes, notamment sur Pointe-à-Pitre, donc comme Akio, ont développé à leur façon. Et donc, Vukum a un style musical, un sentiment musical, un sentiment rythmique bien particulier qui est propre à Vukum et qui donc a différentes implications, notamment au niveau, je pense, des questions de transe que ce rythme-là peut provoquer dans le contexte du déboulé. Donc,
Oui, je pense que tu voulais ajouter autre chose, justement sur cette musique de Vukum, cette africanité affirmée de Vukum.
Oui, en fait, la création de Vukum a été créée. Vukum existait depuis 84, en fait. Et on est entré au journal officiel en 88. Donc, c'est en 88 qu'on a nommé, que j'ai nommé le groupe Vukum. Donc, il existait un certain nombre de jeunes en Guadeloupe. J'aime bien dire Badibou, le lieu même de Vukum. Nous étions un certain nombre de jeunes et nous avons constaté que la Guadeloupe faisait un carnaval. On était parti au départ seulement sur le carnaval. Et il y avait un carnaval en Guadeloupe qui, pour nous, ne nous ressemblait pas. De plus, on avait une musique qui s'appelle le gros sirop, qui est partie de la Dominique, est arrivée à Capesterre, Trois-Rivières, Vieux-Fort, Basse-Terre. Et donc, cette musique s'appelait le Gossiou. On le jouait sur des gros tambours. Deux gros tambours. Un tambour maquet, le marqueur, le soliste, et un tambour boula, l'accompagnateur. Et derrière ce tambour, il y avait une personne avec qui braquait un son tac, 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 tac. C'est une musique qui se jouait, mais vraiment très, très, très vite. Donc, à la création de Vukum, on a dit, le mot Vukum, en fait, veut dire un désordre pour rétablir un ordre culturel. Donc, à partir de là, monsieur Pierre Serin, qui faisait aussi les masses, ce qu'on appelle les masses Larry, ce sont des personnes qui sortaient avec des vêtements bien précis, seulement durant la période de carnaval, et allaient de rue en rue, de maison en maison, pour réclamer justement de l'argent, danser et réclamer de l'argent. Donc, cette musique-là, ça se jouait essentiellement sur les gros tambours, comme j'ai dit. Donc, à partir de là, nous avons M. Pierre Serin, qu'on appelle Tipier. Il a voulu transformer cette musique-là sur un instrument bien précis qu'il a fabriqué, lui. Donc, un médium chant, un médium accompagnement, un médium aigu, tous les instruments de Vukum, c'est à partir de Pierre Serin. Vukum a deux musiques. Musique de carnaval, quand ils sont dans la rue, ça s'appelle masse. Musique de carnaval quand ils sont dans la rue, dans les déboulés, et une musique quand ils sont sur scène. La musique qui est sur scène est différente de la musique de carnaval. Donc, la création de cette musique, c'est à partir de ces tipiers qu'il a inventé. Il a reproduit tous les rythmes qui étaient sur les gros tambours, sur des petits tambours qu'il a fabriqués. Donc, le tambour de Vukum a une dimension. Chaque tambour de Vukum a une dimension bien propre. Ce qui le différencie des tambours d'Akiyo et des autres groupes. Donc, ce qu'on appelle tambour chant dans Akiyo n'est pas le même que celui de Vukum. Donc, Vukum a deux rythmes. Rythme Gossiwo, Mas Vukum, et le rythme Gossiwo, Mas Lari, quand on est dans les déboulés, dans les rues. Ça n'a rien à voir.
Je pense que le livre va te plaire. Le livre va te plaire, alors. Oui.
Bravo, en tout cas. Et la question va, du coup, être un peu introduite par monsieur, puisque donc la thèse a été vous l'avez soutenue en 2021.
Oui, c'est ça.
Donc, il y a 4 ans. Je voulais savoir si vous aviez présenté votre travail aux membres de Vukum, si vous en aviez pu en rendre compte et comment ça avait été accueilli.
Alors, donc, bien sûr, le travail a été fait le plus possible main dans la main avec notamment les membres fondateurs de Vukum et les acteurs en général. S'il y a pu avoir une petite méfiance au moment de mon entrée dans le groupe juste en tant que musicienne, en revanche, le projet des rédactions d'une thèse a été relativement bien accueilli, en tout cas par toutes les personnes avec qui j'ai pu en parler. Et donc la discussion a continué tout le temps, en fait, donc jusqu'au moment de la publication, etc. J'ai pas encore fait de présentation officielle, entre guillemets, donc collective, au local, pour la simple raison que, comme vous avez pu le constater, j'adore pas parler devant un public, donc ça s'est pas encore mis en place, mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'échanges qui ont été faits de manière plus interpersonnelle, notamment donc avec Fred Demetrius, etc., avec les anciens présidents. Donc, c'est un projet qui a été bien accueilli, qui aujourd'hui encore est assez relayé, notamment par Maurice Lurel, qui vient à mes dédicaces en Guadeloupe à chaque fois, etc., et qui soutient beaucoup le projet. Donc voilà, pas de présentation encore au local officiellement, mais une discussion qui se poursuit, et j'espère va continuer à se poursuivre pour les prochains projets avec eux.
Quel instrument joues-tu ?
Alors, moi, je joue donc le tambour aigu, qui n'existe pas en tant que tel dans d'autres groupes comme Akiyo, puisqu'on n'a que des tambours aigus solistes. Et dans Vukum, il y a donc ces petits tambours aigus qui ont été ajoutés.
Écoutez. Oh bon.
Ça va, on est d'accord sur ça. Ah, ben, moi, ça me... contraire. Voilà, donc je joue le tambour aigu.
Qui souhaite s'exprimer ?
Bonjour, plutôt bonsoir. Bonjour. En tout cas, bravo pour votre travail.
Merci beaucoup. Vous que
l'on vous voit ? Oui, bien sûr. Vous me voyez mieux. Petite question. La Guadeloupe, c'est deux îles. Donc, vous avez
l'archipel.
La basse terre et la grande terre. Comment ?
Deux grandes îles principales. Et...
voilà. Mais bon, je voulais quand même parler de... je ne parlais pas de Marie-Galante, mais je parlais de la Guadeloupe en tant que telle. Je crois qu'on dit le continent lorsqu'on est en Guadeloupe. Voilà. Donc, il y a deux îles, la Basse-Terre et la Grande-Terre. Et je ne connaissais absolument pas Vukum, mais je connaissais Aquillo. Et la question que je voulais vous poser, est-ce que, en fait, ces deux groupes qui sont différents n'apportent pas, en fait, une différence culturelle ? Et j'écoutais justement ce que disait le monsieur par rapport, j'y connais rien moi en musique, hein, par rapport à ce qu'il disait, que en fait c'était le, ça partait de d'une influence. Et finalement, est-ce que ce serait, c'est pas important de voir, que, même si c'est du carnaval, mais du carnaval pour toute la Guadeloupe et du beau carnaval hein, que vous nous apportez, parce que vous nous faisiez découvrir un carnaval très politique, très culturel. Est-ce qu'on peut pas dire aussi qu'en même temps, bah, y a une spécificité parce qu'il y a une spécificité venant de la Basse-Terre. Et ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que vous avez pu voir le rapport qui existe en fait entre Vukum et Aquillo ? Est-ce qu'il y a des rivalités ou est-ce qu'il y a des ententes ? Voilà. J'espère ne pas trop vous embêter avec mes questions.
Bon, non, au contraire.
Merci.
Merci beaucoup pour la question. Je ne vais pas remercier pour les autres questions, mais c'est un plaisir d'échanger. Alors, par contre, il faut que je me souvienne. La première question, ah oui, la spécificité de la Basse-Terre. Donc oui, je pense effectivement que c'est le contexte régional, donc le contexte de la Basse-Terre a une importance centrale pour le développement des activités de Vukum, notamment pour la dimension un peu plus rurale aujourd'hui de la Basse-Terre, qui permet d'avoir accès notamment à des matériaux d'origine végétale et animale qui modifient un petit peu l'évolution des masses et qui permettent de, encore une fois, se référer davantage à l'esprit du mas, qui était donc d'abord un mas des ouvriers agricoles qui utilisaient les matériaux auxquels ils avaient accès, donc notamment dans les bananeraies, ce qui a donné lieu au Massalousse aujourd'hui, entre autres. Donc la Basse-Terre, avec sa géographie aussi particulière, le volcan, etc., ce sont des éléments importants pour comprendre ce qu'est Vukum aujourd'hui. Aussi parce qu'il y a, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais l'influence notamment de la Dominique, à travers également d'autres groupes, d'autres anciens groupes à masse, notamment les masses de Vieux-Fort qui existent encore aujourd'hui et qui ont eux-mêmes une certaine qui ont été en tout cas valorisés également dans des groupes, dans le groupe Vukum. Et pour ce qui est du lien avec Aquillo, il y a forcément quelques rivalités comme dans tous les groupes humains. Mais cependant, ce sont quand même deux groupes qui ont beaucoup travaillé ensemble parce que l'objectif reste quand même commun. En tout cas, l'essentiel de l'objectif reste commun. La lutte reste la même, la dimension militante reste quand même très proche. Et ce sont des groupes qui dialoguent constamment, qui peuvent se retrouver dans différents événements, notamment sur le plan, comme on dit tout à l'heure, ça a été le cas avec les grèves générales en 2009, etc. Ça a pu être le cas à d'autres occasions. Donc, c'est des groupes qui ont quand même conscience, je crois, d'une sorte de mission, en tout cas d'un idéal qui permet de faire passer les rivalités peut-être au second plan. C'est l'impression que j'ai, en tout cas. Souveraineté
c'est
naturelle.
C'est exactement. C'est ce que je voulais dire après que tu te sois exprimé, c'est qu'il y a, vraiment une sorte d'alliance. On lit en âge, un lien très fort, une union entre les groupes. Et ça, c'est important, peut-être parce que justement, les visées sont les mêmes. L'envie d'émancipation, on n'a pas parlé de cela, d'émancipation et d'affirmation d'une identité, ce sont des visions partagées par les membres de Vukum et les membres d'Aquillo, et pas seulement d'autres groupes également. Je voudrais vraiment qu'on remercie infiniment, avec vraiment beaucoup d'émotion. Lorsque j'ai lu ton ouvrage, c'était avec beaucoup d'émotion. Tu as employé, me semble-t-il, les mots qu'il faut lorsque tu toi qui es une Guadeloupéenne d'adoption, tu ne dis pas métropole, mais tu dis France hexagonale, ou tu dis la France, tout simplement, qui est un territoire très clairement défini, et que tu as parlé de décolonial tout à l'heure. Tu rends hommage à une, à travers ce, cet ensemble, à travers Voukoum, tu rends hommage à tout un peuple, et en ce 27 mai, tu rends également hommage à toutes ces femmes, à tous ces hommes, à tous ces enfants qui furent suppliciés durant des siècles et qui aujourd'hui, malgré les supplices, malgré les sévices, ont créé une identité, une civilisation même, ce sixième continent et cette Guadeloupe. Voukoum, esprit rebelle du carnaval guadeloupéen de Flore Pavie, que je vous demande vraiment d'applaudir et de remercier chaleureusement aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Et puis, message personnel, ce soir à 22h10 sur RFI, je vous propose une émission consacrée au 27 mai, justement à cette application de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. C'est sur RFI et je vais évoquer Voukoum également et on va entendre aussi Akio. Voilà. Merci infiniment. Merci Flore Pavie. Merci encore.
Merci beaucoup.
Vraiment.
Merci.